Bonjour, je suis Camille et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast La Voix des Invisibles. Ici, on parle de ceux que l'on n'entend pas. Ici, on met en mots des parcours de travailleurs sociaux. Et ici, en toute simplicité, je leur donne la parole pour qu'ils puissent se raconter, nous raconter, par où ils ont commencé, par quoi ils sont passés, leur quotidien de travail, là ou les situations marquantes qu'ils ont accompagnées, le ou les publics pour qui leur engagement est plus fort, parce que oui, on a tous nos préférences. Qu'est-ce qu'ils retiennent de toutes ces rencontres humaines, leur avis sur le travail social d'hier et celui d'aujourd'hui, et bien plus encore. J'espère que vous trouverez ces parcours aussi inspirants et enrichissants que moi. Belle écoute à vous. Solène et Rowan se sont rencontrés en formation d'éducatrices de jeunes enfants. Dès les premiers instants, les envies sont communes et les valeurs sont partagées. Une fois diplômées, elles décident de poursuivre l'aventure ensemble, mais à l'étranger. Elles construisent le projet Éducœur et partagent leur voyage, leur vision, leur ressenti. Je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir. Dans cet épisode, on évoque également la formation de JE ainsi que ce métier et je suis ravie de pouvoir enfin vous présenter des professionnels avec ce profil. Merci à elles pour leur énergie. Belle écoute à vous.
Bonjour Solène et Rowan, bienvenue sur La Voix des Invisibles et merci d'avoir accepté mon invitation. Pour remettre un petit peu de contexte, je disais à une amie juste avant de vous contacter, je cherche absolument à rencontrer des éducatrices de jeunes enfants et j'avais du mal à trouver. Et là, votre profil est apparu sur Instagram. Et je me suis dit, bon, ok, c'est un signe. Et j'ai découvert votre page. Et donc, je me suis dit, allez, je les contacte. Donc, la tradition veut que je vais vous laisser vous présenter, nous dire depuis quand vous êtes dans le social et quelle est votre formation initiale.
Ok, bon bah bonjour Camille.
Bonjour,
merci à toi du coup de nous permettre ce petit échange. On est contente d'être là en tout cas.
Oui.
On croit aussi au signe et qu'il n'y a pas de hasard. Alors, du coup, moi je suis Rohan, je suis éducatrice de jeunes enfants, comme tu l'as dit. Diplômée depuis 2018, comme Solène.
Oui, voilà, donc moi c'est Solène, et puis bah voilà, également éducatrice de jeunes enfants, en fait on s'est rencontrés durant notre formation. Donc voilà, on a fait notre formation du côté de Tours, à l'ITS de Tours.
Ok, et alors qu'est-ce qui a fait que vous vous retrouviez dans cette formation d'éducatrice de jeunes enfants?
C'est une grande question. Alors, ça a été la suite de plusieurs événements. Alors, moi, je connaissais pas... 2 ans avant, je connaissais pas le métier d'éducateur de jeunes enfants. Pour moi, c'était quelque chose de complètement abstrait. Et justement, j'ai fait la rencontre de plusieurs personnes. Du coup, alors, je voulais me diriger vers un métier dans la petite enfance. Et du coup, une personne m'a parlé de ce métier-là. Et finalement, j'ai fait la demande de faire un stage. J'ai rencontré une éduque de jeunes enfants, etc. Je me suis informée par rapport au métier et ça correspondait complètement à la vision que je me faisais de moi, en tout cas en tant que future professionnelle, comparée à tous les autres métiers dans le secteur de la petite enfance. Et du coup, voilà, je me suis lancée pour passer le concours.
Ok, une rencontre donc.
Oui, une rencontre. Ouais.
Mon parcours est un peu proche en fait, parce que moi depuis toujours aussi, j'avais envie de travailler avec les jeunes enfants. Le social aussi, enfin vraiment, en fait c'est les deux se sont vraiment articulés en se disant en fait effectivement éducateur de jeunes enfants c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je veux faire par rapport même au contexte justement du travail social et de pouvoir travailler avec justement différents acteurs. Bon, ça je le dis aussi après coup, je pense voilà, mais ça s'est construit petit à petit et aussi à partir de rencontres aussi. J'ai fait des stages et j'ai rencontré des EJE avec des valeurs magnifiques et qui m'ont fait dire que voilà, c'était ce vers quoi je voulais aussi me tourner. Et puis moi j'étais en psycho aussi et j'ai fait une licence de psycho et ça m'a permis aussi d'orienter mes différents mes différents modules ou même stages, etc., pour rencontrer encore plus d'éducateurs de jeunes enfants et surtout dans différents milieux, du coup, parce que c'est ça qui est intéressant. Voilà, j'ai rencontré des éducateurs de jeunes enfants à l'hôpital, en structure d'accueil du jeune enfant type crèche. Enfin, et c'était ça aussi qui m'a fait dire que c'était ce qui m'intéressait. Voilà.
Ok, super. Vous allez nous en dire un petit peu plus du coup par la suite, parce que là, Solène, tu as évoqué des lieux où peut œuvrer l'éducateur de jeunes enfants et j'espère qu'on arrivera à éveiller tout au long de cet échange où est-ce qu'on peut trouver des éducateurs de jeunes enfants qui sont, je trouve, très souvent connectés sur de la très petite enfance, type accueil, crèche, etc. Donc, ok. Donc, vous décidez de passer le concours et vous vous retrouvez dans la même promo à Tours.
Oui, exactement. Tout à fait.
Ouais. Ok. Comment vous avez un petit peu engagé cette formation, vos premiers ressentis, les rencontres que vous avez faites là-bas, vos stages. Enfin, voilà, dites-nous un petit peu comment ça s'est passé pour vous.
Moi déjà je pense à rencontre parce que notre rencontre c'est vraiment passé dès le premier jour et on en rigole souvent parce qu'on se dit que c'était dès le départ où on arrivait justement même à l'école et on s'était interpellé de loin, on va au même endroit, allons-y ensemble. Et en fait ça a vraiment démarré dès ce jour-là et après bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, mais justement on s'est trouvé aussi des valeurs communes au fur et à mesure de notre formation et puis de notre construction professionnelle. Mais je dirais que vraiment cette formation, elle a été très riche tout le long de mon côté, puis bon de son côté aussi. Je crois il n'y a jamais eu de remise en question, de vouloir arrêter la formation déjà. Ça, je pense que, enfin voilà.
Il n'y a pas un stage qui vous a mis le doute ou vous êtes dit bon, c'est pas exactement ça. Parce que parfois, quand on déconstruit un peu de l'intérieur, ça vient remettre un peu en question. Mais ça n'a pas été votre cas du coup.
Peut-être plus dans le sens où je m'attendais pas forcément, j'avais pas forcément ces attentes-là par rapport à ce stage, mais pas dans le sens à se dire c'est pas le métier que je veux faire ou dans lequel je me représente. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Alors pas qu'on y est forcément, quand on est stagiaire on aimerait que chaque expérience soit porteuse, qu'on soit dynamique, qu'on trouve l'équipe parfaite avec qui ça match, mais c'est pas la réalité que l'on vit, et c'est ça qui est également formateur, et ça nous permet à nous de réellement comprendre quelle est la réalité de terrain, de nous adapter, de faire face aussi à des équipes parfois qui sont en homéostasie, en tout cas qui cherchent cette homéostasie, qui ne veulent pas en tout cas voir du changement ou réfléchir à du changement, et parfois nous-mêmes être en difficulté parce que on se retrouve pas et on n'arrive pas à être porteur non plus dans ce contexte-là. Donc non, je pense qu'on a vraiment à travers la formation on s'est construite effectivement en tant que professionnelle, et ce qui a été riche évidemment c'est que personnellement c'est venu éveiller des choses que on n'aurait peut-être pas pensé dans un autre contexte, et ça c'est ça qui est vraiment intéressant. Nos formateurs nous le disaient au départ, ils nous disaient vous allez voir la formation va vous bousculer, et nous on se disait bah oui elle va nous bousculer, on va apprendre des choses effectivement, mais on pensait pas autant être impacté de ce côté personnel, et c'est vraiment super riche, et comme le disait Solène, c'est en termes de rencontres tant avec les autres du coup les étudiantes parce qu'on était une promo que de filles mais qu'avec les formatrices également, formateurs d'ailleurs également, ça a été des belles rencontres, et on a senti vraiment un soutien, de la solidarité, donc dès lors je trouve que ça nous a porté.
Ok, donc plutôt un bon souvenir de ces 3 ans.
Hein, oui, complètement. Et puis, ce que j'ai apprécié, moi, cette formation aussi, c'est qu'on pouvait justement la construire à chacune, comment on se voyait aussi en tant que professionnelle, ce vers quoi on voulait aller aussi se tester sur le terrain, enfin, découvrir plus amplement. Et du coup, finalement, on a beau avoir eu 3 ans, voilà, où on bénéficiait aussi des mêmes cours, etc., enfin, cours, des mêmes interventions, etc., pour autant, en fait, on sait qu'on est toutes différentes à la fin de ces 3 années de formation et qu'on a saisi les occasions de faire, par exemple, un stage dans telle structure plutôt qu'une autre structure et tout ça, ça a fait notre construction et voilà, ça a participé à qui on est aujourd'hui, quoi.
Ok. Vos stages, justement, vous les faites où durant ces 3 années? Je sais pas le nombre de stages, du coup, qu'il y a dans la formation EJE. Est-ce que c'est 3, 4?
Alors, maintenant, c'est... Je sais plus si je viens de dire de bêtises.
Oui, j'ai peur de dire de bêtises. Ouais. Mais je me demande si c'est... En fait, c'est pas c'est le même nom, mais c'est juste que c'est les DF qui ont changé.
Oui, c'est ça, ouais.
Donc, on en a eu 2 en première année. 2 en deuxième également et 1 en dernier, donc ça fait 5.
Ok.
5 stages.
C'est plutôt varié, effectivement. Ça me permet de voir vraiment beaucoup de choses. Il y a un stage long, du coup,
dans le dernier.
Le dernier. Ok, donc allez-y, dites-moi où vous avez fait vos stages pour que ça permette un petit peu de voir tout ce qui est possible, en tout cas.
Alors, pour ma part, moi, j'ai fait un stage en crèche municipale, un stage dans une association de lutte contre l'illettrisme et les exclusions à travers la littérature jeunesse, une halte garderie, une ONG, du coup, au Sénégal, une pouponnière, qui est intégrée dans cette ONG, et puis hôpital pédiatrique.
Ok.
Et je crois que j'ai rien oublié. Ouais, c'est ça.
Ok.
Alors, moi, je suis restée plutôt dans la petite enfance, donc du coup, le premier en école maternelle.
D'accord.
Le deuxième en crèche. Le troisième en en relais d'assistante maternelle. Le quatrième en halte garderie et le cinquième dans une crèche.
Ok. À chaque fois, vous aviez des référents de stage qui avaient le même diplôme que vous prépariez ou pas?
Pas forcément.
Non, pas forcément.
Non.
C'était pas une obligation, du coup.
Ça dépendait des stages, en fait, vu que en fonction des domaines de compétences, par exemple, domaine de compétences 1 qui se rattache à l'accueil, l'accompagnement du jeune enfant et de sa famille. Donc là, il fallait que ça soit un référent EJE.
Ah non, parce que
pas forcément.
Ouais, tu vois, j'étais en école maternelle, j'étais avec une institutrice.
C'était le 2, ça.
Non, c'était le premier.
C'est mais c'est le DF2.
Ah oui, d'accord. Ouais, autant pour moi, je vais
ouais. Mais après, en fonction des... Plutôt, en fait, les stages qui étaient de l'ordre du DF3, DF4 et qui sont semblables à ceux, par exemple, pour l'éducateur spécialisé, on pouvait aussi avoir des référents des éducateurs spécialisés...
Ou autres,
assistants sociaux. Moi, quand j'étais au Sénégal, c'était ça.
Donc,
pas forcément, oui.
Pas forcément, ok. Et alors, j'imagine que c'est une question qui doit vous revenir souvent, mais est-ce que vous pouvez nous dire la différence entre éducateur de jeunes enfants et éducateur spécialisé? Et pourquoi vous avez choisi plutôt l'un que l'autre?
C'est drôle parce que moi je trouve souvent que du coup on s'appelle éducateur de jeunes enfants et du coup il y a les éducateurs spécialisés, mais finalement nous quand on explique on est plus spécialisé justement dans la petite enfance en fait, justement puisque on va vraiment réfléchir sur le développement des enfants de 0 à 7 ans, ce qui nous empêche pas d'accompagner des enfants qui ont au-delà, puisque dans nos métiers c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais on a vraiment ce regard spécifique sur du coup la petite enfance, sur le développement psychologique et du coup.
Ok, oui, il y a un focus qui est fait sur une tranche d'âge et sur le développement. Ok. Très bien. Donc, durant ces stages, est-ce qu'il y a des rencontres qui vous marquent un petit peu, qui vous permettent de vous projeter en tant que futur professionnel?
Ouais, et je pense que tu rigoles pour la même raison que moi, mais parce que on a fait un stage toutes les deux, mais pas en même temps, du coup, sur une même structure, et on a rencontré une JE qui nous a marqué toutes les deux, en fait, par ses valeurs, par sa bienveillance, je pense qu'elle nous a, enfin, elle a fait partie de qui aussi on est aujourd'hui, je pense.
Quelqu'un qui inspire un petit peu.
Oui, complètement.
Totalement, par sa douceur aussi, de comment elle pose les choses, comment elle les explique, avec beaucoup de respect envers, que ce soit les professionnels ou les familles, dans des contextes où c'est pas forcément en halte. Du coup, elle travaille en halte garderie, et du coup, dans des quartiers... à forte diversité culturelle, donc ça demande aussi une certaine adaptation, et aussi parfois savoir communiquer entre guillemets le même langage que les personnes. Donc je parle pas en termes de français, je parle vraiment en termes des familles diverses qu'elle pouvait accompagner, et on sentait vraiment qu'il y avait toute une réflexion et un accueil personnalisé envers chacune d'entre elles et envers les enfants, et c'est vrai que ça nous a énormément nourris, ça a du sens, cette rencontre, surtout que du coup on a pu faire notre ça chacune, des moments différents.
À voir votre sourire, effectivement, ça a l'air d'être quelqu'un qui a compté. Donc vous sortez diplômé en 2018, qu'est-ce que vous décidez de faire en 2018?
Alors, en vrai, c'était pas en 2018, puisqu'on l'a réfléchi un petit peu plus en amont durant la formation, parce qu'il faut savoir que moi, quand je suis partie en stage donc au Sénégal, quand je suis revenue, c'était un stage qui m'a aussi beaucoup marqué. On peut aussi parler de rencontres, mais pas forcément de rencontres professionnelles, mais je pense que dans le voyage, il y a aussi d'autres rencontres, mais qui fait que ça nous construit, voire déconstruit. Et du coup, quand je suis revenue et que j'en ai beaucoup parlé aussi à Rohan de cette expérience-là, on s'est dit, finalement, là, c'était une expérience au Sénégal avec une culture aussi différente qui m'a beaucoup appris. Et il y a tellement, en fait, de cultures, tellement de pays, tellement de choses qu'on pourrait découvrir aussi ailleurs. On s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne repartirait pas? Et du coup, donc, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on s'est décidé de faire. Donc, quand on est sorti de formation en 2018, on avait encore quelques mois avant de partir, parce qu'on est parti, nous, en janvier 2019.
Ok.
Voilà. Donc, dans plusieurs structures, c'était notre volonté d'aller aussi directement s'impliquer dans des structures à l'étranger, en tant que bénévole, du coup.
C'est ce que j'allais vous demander, du coup, de préciser. Ouais. Du coup, c'est vous êtes parti à l'étranger bénévolement dans des structures qui accueillent, vous allez nous dire, mais des enfants. Ok. Ouais. Et vous avez donné un nom à votre projet. Est-ce que vous pouvez nous le dire? Je vous laisse la primeur, du coup.
Et c'est le projet Éduqueur.
Donc éduque comme éducatrice, avec le C qui fait la jointure avec cœur, effectivement.
Exactement. Parce que tout part de là, évidemment, nous. Effectivement, il y a une réflexion, mais beaucoup de choses partent du cœur, et on voulait un peu donner. En fait, c'est venu
du cœur.
Voilà, c'est ça. Tout simplement, c'est vrai. Donc, comme disait Solène, on s'est impliqué bénévolement dans des associations qui sont toujours locales, dans le sens où la première est franco-sénégalaise, la deuxième est franco-indienne, et la dernière, elle est thaïlandaise complètement. Ouais. Et c'était vraiment un choix de notre part de pouvoir s'impliquer dans des structures où il y a une équipe qui
est locale,
du pays, qui connaissent la société, les problématiques des enfants de façon particulière, et puis en ce lien-là.
Parce qu'il faut savoir que quand on part justement à l'étranger pour vouloir s'impliquer en tant que bénévole, il faut faire vraiment attention à toutes les questions de volontourisme où parfois on peut partir justement c'est pas forcément des associations, du coup ça peut être des organismes, qui permettent en fait aux personnes d'être impliquée dans une asso et de faire du tourisme aussi à côté, mais où parfois les problématiques sont pas aussi bien réfléchies que ça et où ça peut faire plus de mal aux populations locales dans le sens où on va réfléchir à un projet qui va être éphémère, qui va permettre à des personnes extérieures de venir s'impliquer, mais sans prendre en compte vraiment les problématiques, sans prendre le temps d'observer, de faire avec en fait les locaux, et finalement même si toutes les personnes qui s'y impliquent vraiment y partent avec beaucoup de volonté, et finalement après coup on peut se rendre compte que ça peut faire plus de mal, parce qu'en fait on peut arriver et dire bah tiens par exemple imaginons faire des cours d'anglais auprès d'enfants et alors qu'on n'a pas forcément déjà les compétences pour le faire, et repartir, tout s'arrête, donc les enfants se retrouvent finalement pas avec cette continuité. Et du coup c'est vrai qu'avant de partir il faut vraiment faire attention aux structures vers lesquelles on se tourne, ce qui a été le plus compliqué, enfin compliqué oui et non, mais ce qu'on a le plus veillé à faire en tout cas avant de partir, quoi.
Et vous avez eu une vigilance sur ça, effectivement, à faire très attention avec qui, enfin, en tout cas, où est-ce que vous alliez et pour quel projet.
Tout à fait.
Donc, votre premier départ, c'est en janvier 2019. Vous retournez au Sénégal. Enfin, du coup, Solène retourne au Sénégal et Rowan, pour toi, c'est une découverte. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'association où vous êtes, comment ça se passe, les profils des enfants, ce que vous y faites, enfin, voilà, nous raconter un petit peu cette première expérience à l'étranger.
Alors du coup, l'association, elle s'appelle Pour une enfance Sénégal. C'est une association qui permet d'œuvrer pour les enfants talibés. Les enfants talibés, en fait, c'est des enfants... Moi, la première fois que j'ai été au Sénégal, je les ai tout de suite vus, en fait, ces enfants dans les rues qui viennent souvent avec un petit pot à la main et puis qui demandent, en fait, qui mendient dans les rues. Et donc ça, c'est une problématique qui existe au Sénégal avec finalement ces enfants qui sont confiés par leur famille à des marabouts pour apprendre le Coran. Mais dans la réalité, alors il peut y avoir des écoles coraniques qui sont, voilà, où les marabouts, il n'y a pas de difficulté. Voilà, ils apprennent le Coran aux enfants, mais il y a aussi beaucoup de ces marabouts qui sont très malveillants et qui mettent en place ce système de mendicité des enfants, où les enfants effectivement apprennent quand même le Coran le matin très tôt, enfin différentes périodes dans la journée. Mais sur une majorité du temps, en tout cas, les enfants sont dans les rues en train de mendier et puis manquent vraiment de soins, manquent de tout système, voilà, d'éducation. Et du coup, tu voulais rajouter quelque chose?
Parce qu'en fait, les enfants, ils ont une somme, en fait, chacun a ramené en fonction de leur âge, de comment le marabout aussi considère qu'il peut ramener une certaine somme. Et certains, du coup, peuvent être victimes aussi de maltraitance physique s'ils ne ramènent pas.
Physique, après, même sexuelle, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de problématiques pour ces enfants. Et du coup, les associations, donc là, pour une enfance Sénégal, elle agit pour permettre des temps aussi un peu hors de ce que vit l'enfant dans son quotidien. Donc, c'est sur les matinées où les enfants sont accueillis sur ce centre et donc peuvent à la fois accéder à un petit déjeuner, à des soins, à des douches, à des temps, du coup, d'éveil, de jeu. Et tout ça en collaboration aussi avec le marabout, c'est-à-dire que les marabouts sont vraiment en contact aussi avec l'association, parce que finalement, si le marabout refuse ou n'est pas du tout dans l'échange, ces temps ne pourraient pas aussi exister. Donc c'est là toute la difficulté aussi, c'est de faire aussi avec pour permettre aussi le bien-être des enfants sur certains temps en tout cas, et faire en sorte aussi de sensibiliser sur certaines questions, par exemple l'hygiène, voilà. Donc c'est
En fait, à l'origine même du projet, ils sont allés directement, du coup, les fondateurs sont directement allés voir aussi les marabouts, alors de proximité, pour leur présenter en fait leur désir de créer cette association-là, pour échanger, pour un petit peu dire ce qui allait se faire, et pour que les marabouts puissent accepter d'envoyer les enfants talibés. Et ça s'est vraiment fait dans ce sens-là, dans un processus de collaboration, dans l'intérêt du coup des enfants.
Et du coup, ça a été plutôt accueilli comment par les marabouts en première intention? Ils étaient plutôt d'accord pour que les enfants fréquentent la structure, ou s'il y a eu quelques réticences au démarrage, peut-être que vous savez
En fait, ça dépend aussi les marabouts. Il y en a certains qui n'ont pas accepté, d'autres oui, mais...
Avec certaines conditions.
Voilà,
aussi.
Avec des conditions. Ouais. Okay.
Par exemple, certaines musiques ou des choses comme ça, ils veulent pas que les enfants les entendent. Il y a des petites choses comme ça, des codes qu'il faut essayer de respecter.
Pour pas... D'accord. Si vous repérez un enfant qui est victime de violence avec des coups physiques, quel levier il y a là-bas pour agir?
On en a déjà repéré. Donc, en fait, déjà, ça dépend déjà de la gravité des coups. Et ensuite, si vraiment ils sont graves, pour en avoir échangé avec l'ancien coordinateur, il avait pu, lui, directement signaler effectivement ces coups-là. Après, ce qu'ils essayent de faire... la plupart du temps, encore une fois, c'est d'aller vers le marabout, okay, pour du coup travailler sur un échange, sur comprendre en fait ce qui se passe et les difficultés. Et ils sont vraiment dans ce travail justement de proximité pour le coup, pour essayer de directement à la source de venir essayer d'éveiller les consciences.
Parce que du coup, il y aurait un risque que le marabout se ferme peut-être et que l'enfant puisse plus venir, qu'il soit envoyé ailleurs et que finalement, le danger augmente pour l'enfant.
Exactement.
Donc l'idée, c'est de pouvoir travailler avec eux. Vos premiers pas dans cette association, comment ça s'est passé pour vous? Parce que c'est assez décalé, du coup, j'imagine, de ce que vous avez pu connaître en formation sur vos premiers jobs, etc. Enfin, comment vous traversez ça?
L'adaptation s'est fait très facilement, en vrai. Les professionnels du coup sur place sont vraiment extraordinaires. Enfin, on est vraiment dans l'échange aussi avec eux. Et on a eu un temps aussi d'observation, enfin observation participative, mais du coup on était aussi dans essayer de comprendre ce qui peut déjà être mis en place sur le lieu. Et puis après, finalement, le questionnement il s'est fait au fur et à mesure aussi, en fonction des rencontres, en fonction, voilà, par exemple, on parlait tout à l'heure de la difficulté, pour nous, ça peut être une difficulté aussi d'aller travailler avec les marabouts. On a été amené, par exemple, une fois, c'était toi, Roanne, mais à servir un jour des repas aux enfants. C'était un temps plutôt exceptionnel, parce que d'habitude, c'est les petits déjeuners. Donc là, c'était un temps plus exceptionnel de servir le déjeuner, et où le marabout était venu vers Roanne en demandant d'avoir lui un plat. Et c'est vrai que ça peut nous heurter aussi, en se disant, on aura envie de dire non aussi. En fait, c'est pour les enfants, il n'y aura peut-être pas en plus assez pour tous les enfants. Mais à côté de ça, il faut faire avec, mais c'est pas toujours simple du coup. Et je pense que d'être à deux aussi, ça nous a permis d'être aussi dans cet échange-là, pour essayer de prendre de la distance et de faire aussi avec nos émotions. C'est vrai que voilà, c'était sur des temps un peu ponctuels comme ça, où on pouvait vraiment se questionner et voir effectivement que c'était aussi tout autre de ce qu'on pouvait voir en France.
Oui, bien sûr. Vous évoquez pas les parents, il y a pas de rencontre avec les parents en fait de ces enfants puisqu'ils sont confiés au marabout, donc jamais vous avez accès aux parents.
Non, vraiment pas.
En général, en fait, les enfants talibés, ils viennent d'une ville très lointaine, ou parfois d'autres pays, voilà, c'est okay, ça.
D'accord.
Et donc, du coup, certains retournent pendant, du coup, l'été, enfin, en tout cas, les temps un peu de coupure pour, dans leur famille, pour récolter, enfin, d'ailleurs,
pour aider aux récoltes,
des choses comme ça, mais c'est pas tous, donc du coup il y en a qui sont plus du tout en lien avec leur famille non plus, donc
d'accord. Enfants qui peuvent être petits, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué l'âge des enfants, mais peuvent avoir aussi les plus petits qu'on ait vus 4 ans et après jusqu'à 18 ans et du coup au-delà, parce que certains aussi deviennent parfois marabouts aussi à leur tour.
Ok, vous restez combien de temps du coup sur ce premier voyage ?
Deux mois.
Ok. Ouais. Et comment le retour se fait ? Comment vous vous sentez au retour ? Qu'est-ce que ça éveille chez vous ? Quel est votre sentiment, votre ressenti un petit peu au retour ?
Alors, en fait, on a directement aussi été au pays suivant, donc on était en Inde directement.
Directement, il n'y a pas eu de...
Oui, une longue échelle.
Direct non plus, mais
en tout cas, oui, fait, on a continué effectivement notre implication dans une autre association par la suite, quoi.
D'accord, L'Inde, vous l'avez réfléchi avant de partir au Sénégal, ou c'est au Sénégal que vous vous êtes dit, bon, on continue ?
Bon, tout était réfléchi, on avait vraiment trouvé les assos dans lesquels on voulait aller en amont du départ. Quoi.
Donc l'Inde et la Thaïlande par la suite, tout était déjà calé.
Oui.
D'accord. Donc vous arrivez, vous mettez le cap sur l'Inde, on va dire. Parlez-nous un petit peu de qui vous avez rencontré là-bas, dans quelle structure vous étiez.
C'est intéressant dans le sens où tu disais du coup c'est pas un retour, mais ça a été on a continué vers l'Inde et du coup ça a été assez différent. Solène le dira avec ses mots, mais au départ, parce que c'est vrai que l'Inde, on le dit beaucoup, mais au niveau des sens, on est complètement tous les sens sont en éveil, en exergue, au niveau vision, au niveau sonorité, au niveau des de l'odorat, en fait tout se réveille. Et donc c'est vrai que
on a vécu comme un choc culturel encore différent. C'est différent aussi du Sénégal, en plus c'est vrai que moi personnellement, toi aussi maintenant, mais le Sénégal c'est vraiment mon pays de cœur, et du coup de quitter le Sénégal et avec aussi ce qu'on venait de vivre avec les enfants talibés etc, pour enchaîner directement et se remettre aussi dans un contexte de allez je repars de nouveau dans une culture différente, dans une rencontre d'un public aussi vulnérable différent, qui ça nous a un peu bouleversé en fait, même si on s'y est très vite aussi réadapté, mais c'est vrai que la première semaine on se dit mais attends, qu'est-ce qu'on fait là?
ce qui nous a aussi aidé, je trouve, c'est tout de même de pouvoir passer par l'écrit, puisque du coup à travers Éducœur on partageait nos expériences, et à la fin de ce qu'on avait vécu avec les enfants talibés, on a écrit du coup un poste, et en fait ça nous a, je pense, aidé aussi à un moment donné prendre du recul sur ce qui s'était passé, mettre toutes les émotions, les bonnes expériences qu'on avait vécues, nos réflexions, tout simplement, pour après aller faire la transition vers l'Inde, qui nous a bousculé, mais bousculé aussi de façon positive, c'est-à-dire que du coup on s'est senti aussi bien accueilli par l'asso avec laquelle du coup on avait décidé de s'impliquer, et des choses se sont faites petit à petit, on a pris nos marques également, on s'est laissé encore une fois ce temps d'observation pour après être un peu plus dans la proposition, mais
parce qu'il y a quand même deux enjeux. Il y a l'adaptation au pays, à la culture, et l'adaptation d'un fonctionnement d'une structure. Quand déjà on change de travailler plutôt de façon très classique dans notre ville, on est toujours un peu « oh là là, c'est différent, qu'est-ce qui se passe, il me faut du temps ». Alors là, si vous transposez ça d'un pays à un autre que vous connaissez pas forcément, c'est un sacré challenge que vous avez relevé. Oui, quand même, bravo à vous en tout cas d'avoir eu cette ambition. Ok, donc en Inde, vous arrivez dans quelle structure, auprès de quel public?
Alors, c'est des enfants de gypsies. Donc, c'est des enfants, en fait, qui sont, du coup, issus, du coup, d'une population qui est plutôt voyageuse, en fait, à l'origine, en tout cas. Et il faut savoir qu'en Inde, il y avait, du coup, ce système de caste qui est, à la base, aboli, mais qui existe encore. Et en fait, les gypsies font partie, du coup, de la classe inférieure et qui sont même hors de ce classement-là. Et donc, ils sont, malheureusement victimes, du coup, de discrimination, d'un manque de considération. Et du coup, ils ont moins accès, du coup, aux soins, à l'éducation. Et ce sont des familles, du coup, qui souvent peuvent être, du coup, dans la précarité et qui, pour s'en sortir, voyagent de chantier en chantier, dorment sur les chantiers pour pouvoir, en fait, subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants.
Okay.
Donc nous, on était dans une association qui prend en charge les enfants du coup des familles, donc ils ont différentes maisons, donc soit des maisons avec des garçons ou soit des maisons avec des filles et avec du coup qui sont accompagnés par un couple du coup des référents éducatifs qui prennent soin d'eux.
Ok, donc c'est pas des maisons, juste pour être sûr que j'ai bien compris, c'est des couples qui accueillent soit un garçon, soit une fille, il n'y a pas de collectif, il y a pas, les enfants sont... Si, il y a un... Ok.
D'accord. En fait, les maisons, en tout, il y a une quarantaine de maisons en Inde. D'accord. De cette association-là. Et dans chaque maison, donc c'est soit des garçons, soit des filles, mais après, en termes de nombre, ils sont environ... 30-40 aussi, 40, hein. ouais.
D'accord.
Dans chaque maison.
Ok, qu'est-ce qui vous a fait choisir ce public, enfin, comment vous faites votre choix? Alors il y a votre vigilance du départ, j'imagine, qui se poursuit, de ne pas faire forcément du volontourisme sur un niveau que vous ne considérez pas en tout cas en accord avec vos valeurs, mais comment vous choisissez du coup?
Alors là, en fait, c'était une association dont un ami connaissait. Et du coup, sa famille avait déjà été dans cette association-là. Donc, il nous avait donné le contact. Et du coup, nous, ça correspondait effectivement, comme tu le dis, à nos valeurs. Donc, on a pris contact également.
On est parti. Vous êtes resté combien de temps en Inde?
Deux mois
aussi. Ok. Ouais. Et alors, quel est votre ressenti un petit peu, le lien que vous avez pu avoir avec ces enfants, avec les adultes qui les accueillent? Comment ça s'est passé un peu tout ça?
Rohan parlait tout à l'heure de l'accueil. Effectivement, on était très très bien accueillis au sein de ces maisons, parce que finalement, on a été dans plusieurs de ces maisons. Alors, tellement bien accueillis que parfois, ça nous mettait même mal à l'aise, en fait, d'être trop accueillis. Par exemple, pour eux, c'était parfois insupportable de nous voir assis par terre avec eux. Ils préféraient nous voir assis en hauteur sur une chaise. Ça a été notre plus gros travail, je pense, aussi au sein des familles. C'était de faire comprendre que nous, on venait aussi pour découvrir comment ils vivaient, qu'on avait envie de vivre comme eux. Et tant pis si on dormait par terre, ce qu'on a fait aussi. On voulait vraiment aussi d'être d'égal à égal. Mais pour eux, c'était compliqué parce que on accueille l'invité d'une manière... vraiment exceptionnelle, enfin vraiment, mais on en riait aussi, on jouait beaucoup sur l'humour pour dire bah non, tu vas voir, moi aussi je vais aller passer le balai, je vais t'aider, etc. Mais je pense que l'humour aide aussi dans ce genre de situation,
mais c'est ça qui était aussi intéressant, effectivement, c'était d'être dans le respect de leur culture, tout en étant en accord aussi, malgré tout, avec nous-mêmes. Alors, il y a des choses où on a laissé passer parce qu'on voyait que c'était trop compliqué aussi pour eux de faire autrement. Donc, L'idée, c'était pas de les heurter, mais de pouvoir leur montrer aussi que les choses, elles peuvent se faire. Et finalement, on a trouvé chacun notre équilibre dans ça. Et du coup, ça nous a permis d'être justement plus en lien et plus proche finalement des enfants, ce pourquoi on était présente, et de pouvoir être vraiment dans un échange plus important.
Ok. Du coup, qu'est-ce qui était proposé aux enfants quand vous, enfin, soit via vous ou via les familles qui les accueillaient, c'était quoi le but? C'était que pendant que leurs parents travaillaient, vous occupiez des enfants ou c'était des allers-retours? Enfin, voilà, comment ça se passait un petit peu?
En fait, ils vivaient vraiment dans la maison H24, enfin, hormis quand ils allaient à l'école, enfin voilà, sur des temps aussi plus exceptionnel, mais c'est vrai que c'était assez rare après, à part l'école, il restait quand même dans les maisons. Mais après, il y avait toujours le lien avec les familles là qui était maintenu, c'était autre chose. Les week-ends, parfois, des familles pouvaient venir. Pour les vacances, la plupart retournent aussi au sein
de leur
famille. Mais alors, après, chaque maison... Alors, c'est vrai qu'on a fait plusieurs maisons. Ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas spécialement envie en arrivant parce qu'on pense que c'est important pour aussi s'impliquer dans un endroit que d'avoir un temps d'observation, que d'avoir un lien de confiance aussi avec les personnes qu'on accompagne pour proposer aussi des choses. Voilà, ça, c'est fait partie aussi des concessions, mais ce qu'on a...
un espèce de compromis dans le sens où pour eux, en fait, c'était tellement un peu quelque chose d'exceptionnel d'avoir du coup des personnes de l'étranger qui voulaient qu'un maximum d'enfants puissent en profiter finalement. Donc après, nous, on a quand même limité parce que sinon, on aurait fait peut-être presque plus de la moitié des maisons en Inde. Mais du coup, on a aussi entendu et compris et sur ce point-là, on n'a pas forcément fait comme on aurait voulu. Mais ça nous a permis aussi de voir effectivement différents fonctionnements.
Et après, pour des choses qu'on a pu mettre en place, justement, ça dépendait aussi de chaque maison, de ce qu'on a repéré sur place. La première maison, on voyait que les filles, elles étaient... c'était une maison de filles, donc les enfants, elles se dévalorisaient beaucoup. Donc, on a essayé de travailler aussi là-dessus à partir d'activités pour leur montrer ce dont aussi elles étaient capables, les dons qu'elles pouvaient avoir, etc.
Parce que c'est vrai que la place de la famille est très particulière et que ces jeunes filles peuvent dès 12 ans en fait devenir femmes et rapidement derrière maman, donc c'est vrai que on avait repéré ça et c'était intéressant de pouvoir mettre des mots et à travers aussi de choses plus pédagogiques, mais c'était effectivement le travail sur cette première maison. Sur la deuxième,
les petits boys. la deuxième, les garçons. Après, ça a été aussi beaucoup autour du sport, hein, de toute façon, autour du jeu, du cricket, ils nous ont fait découvrir.
Le sport national.
C'est ça. Et puis du lien finalement au référent éducatif parce que à travers en fait du coup acheter un peu du matériel de jeu et en fait à travers du coup ça a permis que les référents éducatifs ils passent plus de temps avec les enfants et du coup c'est passé ça a permis des moments plutôt privilégiés où on sentait que ils étaient assez heureux de ça et, les enfants de pouvoir partager ces temps-là, quoi.
Ok, vous étiez parfois un petit peu le plus qu'avait du temps pour eux, et ça c'était très précieux pour eux, j'imagine. D'accord. Et donc pas de retour en France après la fin de votre séjour en Inde. Vous mettez vous repartez tout de suite en Thaïlande.
Oui. C'est
okay.
Ça.
Ouais. Pour 2 mois également aussi.
Alors, 2 mois, on est resté un peu plus parce qu'on a pris un peu de vacances. On a pris 2 semaines de vacances et je pense que ces vacances arrivaient aussi un bon moment, parce qu'en fait, c'est vrai que les enfants en Inde, c'était vraiment du non-stop aussi, parce qu'on était H24 avec eux, on n'avait pas de jour de congé, enfin, c'était vraiment tout le temps avec eux. Et du coup, c'est vrai qu'on a pris des vacances en Thaïlande. Et puis après, on est arrivé donc dans ce refuge en Thaïlande pour 2 mois aussi, à ce moment-là. Okay. Donc là, c'est un refuge qui a été mis en place par, je sais même plus sa nationalité.
Elle est néo-zélandaise.
Néo-zélandaise, ouais. Mm-hmm. Qui s'est mariée avec un Thaïlandais et du coup qui a monté ce refuge, de par ses observations aussi qu'elle avait sur place, de voir certains de ses enfants en fait abandonnés. Donc du coup, elle a monté ce refuge. Au début, il y avait que quelques enfants et nous, quand on y était, il y avait 74 enfants. Mm.
Okay. L'âge de, du coup,
de la fondatrice.
Ok.
Ouais.
Donc, du coup, c'est des enfants, en fait, effectivement, thaïlandais, donc issus de familles précaires ou, du coup, des enfants qui ont été abandonnés pour différentes raisons. Peut-être manque de désir, manque de finances aussi par rapport au handicap. Des enfants qui sont orphelins également. Et puis d'autres qui fuient finalement des régimes autoritaires de d'autres pays, donc du coup qui sont des réfugiés.
Ok. Sur la tranche d'âge, vous étiez sur quelle tranche d'âge à peu près? Parce que là, j'imagine que c'est assez large.
Ouais.
La plus petite,
elle avait 2 ans à ce moment-là.
Ouais, deux ans,
et puis après, certains avaient même 20 ans. Hein,
ouais, la plus âgée, c'était Siri, elle avait 20 ans.
Ouais.
Ok. Mm. Bon, et quelle est votre mission dans ce refuge?
Alors, je pense qu'on dit beaucoup de choses aussi sur cet endroit. Je pense que c'est l'endroit où on a été le plus surpris, en tout cas, où on devait le plus aussi faire la part des choses justement entre nos valeurs et le respect qu'on devait avoir aussi pour l'endroit, parce qu'il faut savoir en fait que c'est cette femme qui a créé le refuge était toute seule en fait pour gérer ce refuge avec si une femme qui venait mais sur des temps un peu plus
des demi-journées.
Et du coup, le fonctionnement était tel que vraiment les enfants devaient, pour les plus grands, s'occuper des plus petits, et les petits avaient des tâches vraiment définies aussi. Et finalement, c'est des enfants qui avaient, on peut le dire, aucun temps de jeu pratiquement sur la journée. Des enfants très fatigués avec un rythme de vie. Incroyable,
prenant,
voilà. Les enfants se levaient à 4h30 le matin pour se coucher vers 22h, 23h, même pour les plus grands. Enfin, et du coup, on a eu du mal en fait à se positionner aussi au départ, puisque quand la responsable nous a accueillis, pour elle, clairement, c'était plutôt on devait un peu être derrière les enfants pour qu'ils effectuent bien les tâches qui étaient prévues. Mmh. Et ça a été un peu difficile pour nous, en fait, de se faire à ça. Donc, en fait, on y a participé, mais ça a été très, très long de créer de la confiance, en fait, avec les enfants. Parce que, justement, quand la responsable du refuge n'était pas là, ce qui arrivait souvent parce que c'était également l'ambulancière en fait du village. Donc c'était nous qui étions vraiment chargés de veiller à ce que toutes les tâches soient faites dans le refuge.
Quand vous évoquez les tâches, du coup, c'est des tâches de quel ordre?
Alors c'est vraiment tout. Alors ça peut être tout simplement le linge, nettoyer les pièces. Ça peut être aussi, il y avait deux jeunes qui étaient en charge du coup d'un enfant qui était en situation de handicap, d'un jeune en situation de handicap. Ça peut être aussi s'occuper du compost, donc le trier des déchets,
brûler les déchets,
changer de place. Je me rappelle de cette où on avait ramené les arbres, enfin, on devait les ramener enfin, donc du coup, mais des troncs d'arbres, quoi, enfin.
Aller couper
voilà,
du bambou.
Construire
des maisons,
enfin, voilà, plein de choses assez différentes, où ça demandait aussi, réparer aussi, enfin, parce que le lieu, ça s'appelle Bamboo School, donc du coup, voilà, les maisons sont faites, en bambou, et donc du coup réparer aussi du coup les espaces, enfin voilà, c'était assez divers, et du coup ça demandait aux enfants de pouvoir être malgré tout assez responsables, hein, puisqu'il n'y avait pas du coup justement Momo tout le temps, et de pouvoir s'auto-gérer, ce qui est compliqué pour qui était compliqué pour des enfants, quoi. Mmh.
Mais oui, et puis 74, c'est pas 10, enfin, c'est pas un tout petit collectif, quoi. Ok.
Ouais. Ouais.
Vous arrivez à vous y retrouver un petit peu, vous, dans ce que vous venez faire là-bas. J'entendais que c'était un peu compliqué au départ, parce que finalement, si tu disais, Solène, c'était compliqué de nouer un lien, parce qu'en fait, les enfants, ils vous voyaient comme la personne qui va encore lui dire ce qu'elle doit faire et pas une personne qui est là pour du bon temps, entre guillemets, ou c'était un peu ça l'idée pour les enfants.
Après, ça s'est créé quand même au fur et à mesure où justement les enfants se sont rendus compte qu'on voulait pas, par exemple, leur dire fais ça, mais où on participait en fait aussi avec eux. Vraiment, on essayait de tout faire avec eux pour montrer qu'on voulait être dans ce lien, et puis de créer des moments aussi un peu plus exceptionnels où voilà, essayer de montrer que pour nous ça avait aussi de l'importance, le jeu, les temps un petit peu, même les temps libres, juste les temps libres du coup, qui souvent font créer du jeu, mais ça, voilà, ils ont aussi compris qu'on essayait de les mettre en place. On a essayé d'aller trier. Il y avait une réserve de plein de jeux, en fait, qui étaient non utilisés. Donc ça, on a essayé de sortir des petits trucs, de montrer à la responsable que oh, ça pourrait être chouette de laisser un petit ukulélé de côté.
Okay. Et elle était OK avec ça?
Oui et non, pour elle c'était tellement important en fait que chaque enfant aussi reste à sa place pour que le refuge fonctionne, que c'était long, mais elle nous écoutait, elle en riait parfois, hein, mais ça a été long, et je pense qu'il y a beaucoup de choses où on n'était pas forcément en accord.
Mais... Elle était sur des besoins vraiment, on va dire... de première nécessité, de premier plan selon elle, donc ce qui était question de nourriture, question financière aussi pour que le refuge tourne, et puis finalement cette question de responsabilité, savoir que elle est plus grande, elle allait pouvoir prendre en charge les autres, et que nous en tant que bénévoles on pouvait assurer la sécurité des enfants, et elle était vraiment sur cette conception là et le jeu, la question du plaisir, c'était vraiment le second plan, alors on essayait de lui expliquer que à travers tout ça, en fait, on pouvait véhiculer énormément de choses et beaucoup plus qu'elle ne pouvait le penser. Mais du coup, effectivement, voilà, on s'est aussi heurté, bah, voilà, finalement, à voilà sa conception des choses, et puis à un moment donné, à elle, peut-être, c'est peut-être plus compliqué aussi de pouvoir bouger sur ce qu'elle pouvait comprendre. Et ce que je pense aussi, ce qui était compliqué pour ces enfants-là, c'était des enfants aussi qui étaient très carencés au niveau affectif et au niveau éducatif. Et donc, du coup, faire confiance finalement à l'adulte, ça pouvait être compliqué. Enfin, qu'est-ce qu'ils pouvaient y gagner finalement, qu'est-ce qu'on venait de faire, qu'est-ce qu'on venait leur dire, ça avait aussi un impact. Alors cette relation de confiance, elle s'est faite avec du temps, vraiment du temps, dans l'échange, et leur expliquer que on était là aussi pour les écouter et respecter, ou là où ils en étaient aussi, hein, parce qu'ils venaient aussi nous comme tout jeune, tout ado, nous tester nos limites aussi,
bien sûr.
Et, du coup c'était intéressant.
Et est-ce que c'est venu un petit peu vous, entre guillemets, hein, vous faire violence sur certaines de vos valeurs, justement, qu'il y ait l'aspect jeu, plaisir, temps libre qui soit absent de leur quotidien par rapport à ce que nous, on connaît voilà, en France, de ce principe de l'éveil au jeu ou de l'éveil par le jeu, tout ce qu'on connaît et qu'on met beaucoup en avant, là, ça a l'air d'être absent là-bas. Donc, est-ce que c'est venu un peu vous faire un peu violence peut-être.
Oui, bah complètement. De toute façon, hein, ça nous a permis de nous dire que pour nous, voilà, ça restait important le jeu, mais que les enfants, ils essayaient de se créer des moments de jeu à part, mais souvent en cachette en fait. Enfin, vraiment. Ouais. Et c'était ça qui était le plus dommage, c'est que on sait à quel point le jeu c'est important. Enfin voilà, peu importe la culture, mais c'était long, et en même temps la responsable voyait que c'était bien, puisque des fois il y avait des visiteurs en fait qui venaient, et elle leur permettait d'avoir des temps aussi un peu plus différents, conviviaux, et nous on en était un peu frustrés de ça, parce qu'on aurait aimé aussi avoir cette place de permettre des choses différentes, et mais c'était pas le même, on venait pas dans la même chose, les visiteurs ouais. venaient sur un temps plus ponctuel, et souvent amenaient beaucoup, enfin voilà, de l'argent aussi, donc besoin d'argent pour faire fonctionner le refuge, donc on leur permet de faire des choses qu'on permet pas ailleurs, donc ouais. c'était un petit peu ça aussi toute la problématique. Mais il y a certaines de nos valeurs, voilà, qui ont été bousculées, j'ai envie de dire, jusqu'à la fin, parce que nous, je pense que ce qui nous a le plus bousculé, c'est la fin pour elle. Elle avait pas envie qu'on dise spécialement au revoir aux enfants, sauf qu'elle nous l'avait pas dit de cette façon, et elle a un petit peu organisé les choses en se disant vite vite faut qu'on y aille, vous allez louper, et puis en fait les au revoir ont été différents en fait de ce que nous on imaginait. Pour elle, notre au revoir avait eu lieu le matin quand on s'était remercié au moment du petit déjeuner, etc.
Même elle disait avant, parce qu'en fait la veille on avait organisé une sortie pour les enfants, du coup sur la rivière Kouai, donc ils avaient pris le train, enfin on avait été au restaurant, etc. Ils nous avaient chanté du coup des chansons, ils nous avaient remercié, enfin voilà, c'était un moment assez fort. Mais du coup elle nous disait oui, mais vous avez eu ce temps là pour du coup adresser vos mots, les enfants aussi vous les ont adressés, etc. Donc on va pas multiplier ce temps là sauf que le moment du départ c'était le lendemain vraiment, et où les enfants n'ont pas eu la possibilité de nous voir partir tout simplement, okay. de nous redire au revoir, et nous aussi,
et ont été surpris en fait. C'était ça, on voyait bien qu'ils étaient surpris quand on partait dans le camion. Voilà, c'était assez violent.
Ils étaient en train de faire du nettoyage encore. Et quand on a descendu en fait la pente, il y en a plusieurs qui se disaient oh, mais qu'est-ce qui se passe,
Donc vous restez un peu sur votre faim là, sur les au revoir que vous pouvez faire avec les enfants sur ça.
Bah, pour nous, c'est important, en fait, de mettre des mots, de se dire au revoir, même si c'est difficile, bah, c'est pas grave, on se dit au revoir, ça peut être difficile, on peut pleurer, c'est pas grave, c'est les émotions, ça fait partie aussi de la vie, et là, effectivement, ça a pas été le cas, enfin, voilà, de comme on aurait, en tout cas, vu les choses. Surtout qu'on avait vu, justement, en fait, des au revoir entre les visiteurs et les enfants, et ça se faisait pas de cette manière-là. Mais elle estimait que, comme nous, on était là depuis 2 mois, ça aurait été trop difficile. En fait, pour elle, c'était vraiment une manière protection. De protéger les enfants, vraiment. Et du coup, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, parfois,
les visions sont
éloignées, alors qu'on veut tous le bien-être de l'enfant, en fait.
Tout à fait.
Du coup, je me permets de rebondir sur ce terme de vision. Là, vous avez, pendant 6 mois, pu conjuguer plusieurs visions, plusieurs façons de faire, rencontrer des cultures, des valeurs différentes. Au terme de 2 mois en Thaïlande, vous rentrez. Comment vous rentrez, du coup, dans quel état d'esprit on est quand on rentre de 6 mois de vadrouille comme ça, avec tout ce que vous avez pu découvrir, rencontrer, confronter?
Complètement, je pense, se bousculer dans un premier temps, vraiment. enfin, quand on est rentré du coup avec Solène, on réalisait pas. Pas du tout quand on était en France. En fait, c'était 6 mois, donc qui sont passés d'une certaine manière vite. Et en même temps, on a vécu tellement d'expériences parce qu'évidemment, on peut pas toutes les compter. Alors, très belles et d'autres, des fois, très dures à vivre qu'on n'aurait pas imaginé non plus. Et donc, dans tout ça, effectivement, il y a des personnes qui nous attendent et nous, on réalise pas. On réalise pas qu'on est en France et que c'est fini d'une certaine manière. Et on n'avait pas envie que ce soit fini. Enfin, en tout cas, le voyage, parce que ça c'est pas fini et c'est toujours vivant et du cœur, mais c'est vrai que ça nous a beaucoup bousculé en tout cas.
Puis la difficulté, c'était aussi la question, racontez-nous, comment en fait, on sait pas.
Par quoi trop, je commence.
Il y a trop de choses à dire et ça parfois c'était difficile, je pense, pour du coup nos proches ou nos collègues ou voilà, pour de se dire, bah en fait, racontez-nous, on a envie de savoir aussi, mais en dire en fait, il faut le temps pour dire les choses et c'est plutôt des choses qui nous reviennent aussi parfois qu'on partage et encore aujourd'hui on se dit, ça, tu te souviens de ça, on n'en avait jamais reparlé, ah oui, et puis tiens, ça serait peut-être intéressant justement d'en rediscuter, d'en parler sur Éducœur, et c'est pour ça qu'on continue de faire vivre aussi la page, c'est que il y a encore plein de choses, je pense, à partager.
Qui nous ont bousculé sur le moment, mais dont on n'a pas conscientisé les choses, et finalement, avec du recul, et en lien aussi finalement avec notre quotidien et nos expériences professionnelles actuelles, ça vient faire écho. Beaucoup de choses nous nourrissent mutuellement, et donc c'est l'occasion effectivement d'en reparler et de réécrire sur ces sujets-là.
Ok. Après, quelle a été l'étape d'après, après votre retour? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, ben, on va chercher du travail chacune de notre côté, et puis qu'est-ce qui s'est passé après, sur la suite?
Je sais même plus.
Alors, en réalité, après, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on était censé rentrer chacune chez nous. Donc, du coup, on avait du mal à se quitter parce qu'après 6 mois de vie commune, donc, on avait envie de passer énormément de temps ensemble, ce qu'on a pu faire. Mais, effectivement, on est retourné vers, du coup, l'insertion professionnelle. Et donc du coup, moi, dans un premier temps, je suis retournée vers dans la crèche dans laquelle j'avais travaillé en fait précédemment, et j'ai cherché ailleurs. Donc du coup, dans la protection de l'enfance, donc je me suis positionnée sur, en tout cas, j'ai postulé sur un poste en AUMO, donc en assistance éducative en milieu ouvert. Okay. Et voilà, j'ai été prise pour ce poste-là. Mais je pense que c'est une continuité et ça fait lien avec les expériences qu'on a eues, dans le sens où voilà, on s'est ouvert aussi à des publics du coup qui étaient carencés, parfois défavorisés, qui vivaient des négligences, et aussi à des adolescents, du coup, expérience qu'on n'avait pas eue auparavant. Pour ma part, et donc du coup ça a permis aussi de faire cette transition là et ça a du sens dans mon parcours.
Toi, Rouhan, tu t'es autorisée à aller sur de la protection de l'enfance suite au voyage, ou c'est quelque chose que t'envisageais déjà un petit peu avant?
Alors, je m'étais dit un jour j'aimerais bien avoir une expérience, pourquoi pas, mais ça a été, enfin, ça a été plus évident en tout cas après les 6 mois. Je me suis dit, j'ai envie d'aller vers ça, et en tout cas, alors je me suis laissé le temps de réflexion quand ils m'ont rappelé, mais pour moi c'était, j'avais envie de découvrir ce domaine-là, être confrontée à autre chose dans l'accompagnement des familles. Et, oui, je pense que ça m'a vraiment ouverte à cette perspective-là de façon plus concrète, et où je me suis dit, face aux expériences vécues, il y a certaines, voilà, évidemment, compétences qui se sont développées. Et, j'avais envie d'aller chercher du coup ce qui pouvait être possible dans ce domaine, enfin en tout cas en AEMO.
Du coup, pour rappel, pour ceux qui ne savent peut-être pas, l'AEMO, ce que ça représente, c'est une mesure judiciaire d'une intervention au domicile des parents, en général, pendant un temps donné, où vous évaluez et accompagnez la famille dans leurs difficultés et à pouvoir reprendre un petit peu de pouvoir d'agir dans leur situation auprès des enfants pour que l'accompagnement des enfants se fasse dans le respect de leurs besoins et dans le respect tout court. Et au terme de la mesure judiciaire, vous devez produire un rapport au juge qui devra statuer ou pas sur un renouvellement, un placement ou un arrêt de la mesure.
Mmh.
Voilà, donc tu es sûrement confrontée à des situations où tu as ce genre de décision à pouvoir proposer, puisque c'est jamais le juge, enfin c'est jamais les travailleurs sociaux qui décident, mais un juge, mais tu peux orienter la décision d'un juge.
Exactement.
Et ça, du coup, comment tu le vis ?
Alors, en fait. C'est pas forcément. Alors, en fonction de certaines situations et des familles qu'on accompagne, des fois les choses elles sont plutôt évidentes et en réalité, on cherche toujours à ce qu'il y ait une amélioration dans la situation et que justement les familles elles ouvrent leur vision par rapport à leur prise en charge éducative pour à un moment donné pouvoir se poser des questions et réfléchir à faire autrement pour les enfants. Et du coup, l'idée, c'est que même si on fait des pas de fourmis, parfois les pas de fourmis suffisent à se dire qu'on va partir sur un renouvellement et que cet accompagnement va être plus lent. J'accompagne des familles, pour certaines, depuis 3 ans, et ça va continuer pour 4 ans et sûrement jusqu'à la majorité des mineurs. Ça, j'en suis convaincue. Pour d'autres, en fait, c'est compliqué et elles ne se sentent pas... ou soit parce qu'elles ne voient pas finalement l'impact de leur comportement sur les mineurs, ou soit parce qu'elles ne sont pas en capacité de le faire. Et quand elles ne sont pas en capacité de le faire, c'est à nous aussi d'évaluer à quel point, du coup, justement, c'est néfaste pour le développement de l'enfant et quels risques il encourt, et justement, à être, du coup, prendre cette décision, finalement, de placement ou pas. Après, le placement, les familles le voient... Certaines, au départ, en tout cas, elles le voient beaucoup comme une rupture. L'idée, c'est pas d'arrêter le lien. En tout cas, ça peut arriver, vraiment, où quand c'est nécessaire pour l'enfant. C'est déjà arrivé dans le premier placement que j'ai fait. Il y a eu un arrêt des liens pendant un temps qui a été défini pour protéger le mineur, puisque voilà, il vivait des violences trop importantes. Et donc, du coup, pour à un moment donné, justement, retravailler ce lien-là, mais de façon différente, puisqu'il y a l'ASE qui prend le relais derrière, et l'idée justement c'est de déconstruire des choses pour en reconstruire d'autres, et c'est ce qu'on essaye de dire du coup aux familles et aux mineurs. Et parfois c'est le mineur lui-même qui a des comportements qui sont à risque, qui sont trop dangereux et où les parents ne sont plus en capacité d'eux, et ça peut être eux-mêmes les parents qui ont fait cette demande-là finalement d'accompagnement du coup éducatif, donc c'est administratif, et qui sont dépassés par cette prise en charge-là. Et parfois justement le placement permet aussi à un moment donné d'écarter, puisque finalement il y a une relation qui est trop nocive, il y a des choses qui se jouent dans la cellule familiale, et ça permet à un moment donné de pouvoir casser finalement ce cercle vicieux dans lequel le mineur peut être également.
Ok, merci pour toutes ces précisions qui permettent de mettre aussi un peu en lumière ces services en fait d'accompagnement à la parentalité, en tout cas d'accompagnement des parents dans la prise en charge de leurs enfants quand il se trouve qu'ils rencontrent quelques difficultés. Toi, Solène, quel choix tu fais au retour en France après ce périple ?
Alors, moi aussi, je suis retournée dans la structure où j'étais juste avant de partir, mais pour peu de temps. Et en fait, je suis tombée sur une annonce, moi, de service civique dans une association qui s'appelle Utopia 56 et qui accompagne les exilés, les migrants qui sont en France. Et du coup, l'antenne de Tours, donc là où moi je suis, plus particulièrement les mineurs non accompagnés,
Et du coup, j'ai postulé à ça et du coup, j'ai été prise. J'y suis restée donc 6 mois. Et après, ça a été prolongé en... J'ai été salariée du coup dans cet asso 1 an de plus, voilà. Donc, une expérience aussi qui est totalement reliée aussi à ce qu'on a pu vivre. Voilà, ça a été un peu une continuité aussi, une réflexion de se dire... on a été un peu des étrangers aussi, nous, pendant... Des étrangères pendant 6 mois. Et nous, en France... comment est-ce qu'on accueille aussi, alors que nous on a été tellement bien accueillis aussi dans ces pays, même si c'est une chose aussi totalement, enfin voilà, c'est différent aussi, mais quand même. Et du coup, ça, c'est des choses qui m'ont un peu éveillée et pour lesquelles je me suis bien retrouvée dans cette association-là. Association, en tout, je suis restée 1 an et demi. Actuellement, j'y suis encore, mais en tant que bénévole. Et au bout d'un an et demi, le travail avec les jeunes enfants aussi m'a manqué, puisque là, c'était quand même avec des adolescents et jeunes adultes. Donc du coup, j'ai cherché à retrouver un poste vraiment où je pourrais avoir une place auprès des plus petits. Et donc, c'est là où je suis arrivée, donc dans où je suis actuellement, dans la protection de l'enfance, sur une unité qui accueille 6 enfants placés à l'aide sociale à l'enfance.
Okay.
Et là où je suis depuis plus d'un an.
Ok.
Voilà.
Et tu t'y retrouves, du coup, là où tu es aujourd'hui, par rapport à tout ce que tu as traversé avant?
Alors oui, je trouve que l'accompagnement des enfants, du coup, peut se faire quand même d'une manière assez individualisée, vu que c'est une petite unité. Moi, je connaissais pas du tout la protection de l'enfance avant ça. Enfin, j'étais pas, en tout cas, en formation, j'avais pas fait stage dans la protection de l'enfance, etc. Ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est le travail qu'on a avec les différents partenaires, les différents travailleurs sociaux, aussi bien, donc, du coup, éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, beaucoup aussi les psychologues. Et du coup, je trouve que tout ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, c'est de tous pouvoir mettre en lien nos réflexions, nos pistes, notre formation pour aussi se rapprocher au plus près du bien-être des enfants et de leur accompagnement. Donc ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Et puis, de toute façon, il y a beaucoup aussi de parallèles qui se font avec ce qu'on a pu vivre au cours de nos 6 mois, aussi bien d'accompagnement, voilà, des personnes plutôt vulnérables, et puis également aussi auprès des enfants, c'est des petites choses qu'on lance aussi aux enfants. Ils le savent très bien que je suis partie pendant 6 mois. C'est quelque chose que je leur partage et ils se questionnent beaucoup sur justement l'ouverture au monde, à la différence. C'est aussi des enfants qui ont beaucoup d'origine d'ailleurs, qui peut être du Sénégal, d'Éthiopie, etc. Donc du coup, ça fait beaucoup, ça a beaucoup de sens aussi.
Ça fait écho des fois. Tu te sers de ce que vous avez traversé pour dans ta pratique. C'est un peu la question qui me venait en vous écoutant toutes les deux. C'est j'imagine que vous avez eu accès à une prise de recul assez importante de par cette expérience de 6 mois et le retour sur des pratiques qui sont les nôtres en France avec la grosse machine protection de l'enfance. Qu'est-ce que cette prise de recul vous permet? Est-ce que vous êtes est-ce que vous vous sentez plus attentive? Est-ce que votre vision a changé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, peut-être, déjà?
Alors, je pense que forcément, notre regard, il est teinté par ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu comprendre aussi des populations qu'on a rencontrées. Et du coup, quand on accompagne et quand on est en lien avec les personnes, du coup... ayant une culture différente ou en tout cas étant proche effectivement de pratiques qui peuvent en tout cas questionner, ça nous amène nous à peut-être être dans un discours qui va les rassurer dans un premier temps, qui va peut-être où ils vont se sentir en confiance De se dire bah, ok, on est entendu, on est compris dans notre identité, parce que à la base c'est ça, enfin c'est une question d'identité malgré tout. Et donc du coup ça joue beaucoup de choses dans l'échange qui va se passer et dans nous, notre envie de les accompagner a un petit peu bougé, parce que l'idée c'est d'entendre où, là où ils en sont, et de prendre en compte, mais aussi de les éveiller à ce que parfois certaines pratiques ne sont pas en adéquation avec le territoire sur lequel ils sont. Et ça, certaines familles sont en difficulté pour le réaliser, puisque ça touche à du coup leurs propres valeurs, leur conception de la parentalité, et comment on leur a transmis les choses. Cette question de transmission, elle est vraiment fondamentale. Et du coup, en tout cas, nous, on est dans ce discours-là, et je pense que ça peut faire du bien. Après, nous, ça nous amène aussi finalement à aussi poser aussi des mots très concrets pour les aider à prendre conscience des choses. Oui, ça, en tout cas, je pense que ça a changé beaucoup de choses dans notre façon d'accompagner, en tout cas, et de verbaliser les choses.
C'est un autre regard aussi, ouais, c'est vrai, qu'on peut avoir, parce que finalement, ouais, certaines choses, même au sein de l'équipe, elles peut-être peuvent se dire oh, non, là, c'est vraiment... c'est maltraitant, c'est... mais en fait, il faut toujours aussi avoir en tête que voilà, ça fait, il y a des choses pour nous qui peuvent nous paraître aussi violentes, mais parce que ça fait partie de notre culture, de notre identité, où on nous a toujours dit que ça se faisait plutôt de cette manière-là plutôt que d'une autre. Et du coup, dans d'autres contextes, on peut donner l'exemple de finalement, on peut dire au Sénégal, parce que nous, c'est plutôt le Sénégal, mais même dans d'autres pays d'Afrique, que toutes les personnes autour d'un enfant veillent à ce qu'il se porte bien, a toujours un œil attentif. Donc, nous, de notre côté occidentaux, on peut se dire oh, « cet enfant est tout seul », mais en fait, pour eux, non, justement, il n'est pas tout seul. Il est entouré de regards, de personnes qui prennent soin de lui, peut-être différemment que ce que nous, on a en tête. Mais en aucun cas, c'est quelque chose qui peut être perçu justement comme quelque chose de négatif pour les parents, pour la famille, pour ceux qui accompagnent qui accompagnent l'enfant. C'est vrai que c'est un autre regard aussi. Juste, on peut se questionner un peu différemment. Et alors, tout n'est pas relié non plus à la culture, mais on peut en tout cas avoir aussi ça dans un coin de notre tête pour au moins se questionner.
C'est des petites clés de compréhension que vous avez.
Ouais.
Du coup, maintenant dans votre boîte à outils, quoi.
C'est ça. Je trouve ça intéressant ce que tu disais, Solène, dans le sens où tout n'est pas lié à la culture, parce que nous, on s'attache aussi à se dire que chaque famille a sa propre culture, et donc du coup, par rapport à ça, évidemment, du coup, il y a des pratiques qui sont différentes, et on cherche pas. Justement, on se dit qu'il y a une diversité d'accompagnement, une diversité aussi de prise en charge sur lesquelles, dans tous les cas, nous, ça nous demandera du coup d'adaptation qui nous pourront nous bousculer et sur lesquelles on fait attention. Et ça fait écho aussi à la dernière expérience qu'on a eue en Italie, où on a été dans une structure multiculturelle et la responsable nous donnait cet exemple-là, que c'était un enfant du coup de nationalité chinoise qui était le premier à faire semblant à faire le café du coup alors que le café en Italie c'est quand même quelque chose de symbolique, et c'était toujours lui le premier à venir, et donc ça vient aussi marquer finalement nous et bousculer nos stéréotypes, et le voyage c'est ça aussi, hein, ça nous a permis de aussi casser des choses qui étaient ancrées, qui sont là, qui sont fausses, et des croyances qui sont pas forcément réels, et c'est ça qui est intéressant finalement.
Ok, donc vous êtes reparti en Italie, vous avez repris la route.
Ouais. Sur une petite durée en fait, c'est ça qu'on veut continuer à faire vivre dans notre projet, dans le projet Éducœur, c'est pouvoir se resservir aussi de d'autres expériences, alors pas sur des délais aussi longs peut-être, puisque maintenant on est en poste et pour l'instant on compte y rester, donc du coup on n'a pas de longues périodes comme celle-ci, comme celle qu'on avait eue en 2019, mais sur des temps plus ponctuels aussi, ou même en allant simplement à la rencontre en fait de professionnels de d'autres pays qui mettent en place des projets aussi super intéressants, et de croiser un peu tout ça et se dire qu'on peut se resservir en fait aussi de toutes ces idées et de toute cette réflexion qui peut aussi y avoir ailleurs. Donc cette fois-ci de pas s'y impliquer compliqué. Là, comme on était en Italie, on a vraiment rencontré la structure sur une journée.
Okay.
Mais en tout cas, de pouvoir aller à la rencontre, voilà, aller en Italie, voilà, cette structure multiculturelle, elle a vraiment réfléchi à la place de la culture, à la place de chaque, justement, famille dans cette structure-là, en partant de ce que voulaient aussi les parents à la base, c'est-à-dire permettre à la fois à leur enfant de s'intégrer, d'apprendre l'italien, mais en même temps de conserver aussi leur propre identité et justement voir à quel point c'était une richesse à la fois pour l'enfant, pour la famille, mais aussi les enfants, voilà, les autres enfants et la société en fait en général. C'est comme ça qu'ils ont créé cette structure-là, et c'était intéressant aussi de voir des professionnels passionnés et qui mettaient en place voilà, des choses intéressantes, où ils avaient des formations vraiment sur l'interculturalité pour tous les professionnels. Enfin, mmh. Et je pense qu'on a beaucoup à s'inspirer en fait de toutes, mmh. sur toutes ces pratiques et ces possibilités à l'infini, quoi.
C'est la question qui me vient du coup en vous écoutant, c'est est-ce que tout ça vous inspire de nouveaux projets? Est-ce que ça vous inspire la création de quelque chose ou pas peut-être?
Oui. Ça nous inspire énormément, c'est clair. Enfin, nous on est nourris à chacune de ces rencontres-là, parce qu'on se rend, enfin, on se dit que c'est possible, en fait. C'est possible d'encore éveiller les consciences, d'encore trouver de la richesse à juste échanger avec une autre personne et à pas toujours être aussi d'accord. Et c'est ça qui est intéressant dans tout ça. Et nous, c'est clair que ça nous enrichit énormément. On a des petits projets en tête, à construire.
Ouais. Okay. Et puis du coup on est retourné dernièrement aussi au Sénégal, du coup on a pu retourner donc là ça fait deux trois semaines.
Okay.
Et du coup on est retourné voir aussi pour une enfance sénégale, mais on avait peu de temps sur place, donc c'est pareil pour nous, ça a pas trop de sens de s'impliquer, mais au moins de retourner voir, de retourner échanger. Et puis ça a été l'occasion de rencontrer aussi d'autres structures. Enfin, là on a rencontré une structure qui s'appelle l'école Les Cajoutiers, qui accueille des enfants qui sont sourds et malentendants, et du coup qui ont un projet incroyable aussi d'une école pour à la fois intégrer des enfants qui sont qui n'ont pas de soucis particuliers, en tout cas d'audition, et également ces enfants-là, et du coup d'avoir à la fois des professeurs qui parlent la langue des signes, et d'autres voilà, qui parlent tout simplement français, wolof. Et du coup, voilà, c'est super intéressant de pouvoir toujours aller rencontrer ces structures-là qui se développent dans d'autres pays, mais en fait on s'intéresse même à d'autres assos qui sont aussi en France et qu'on peut aussi avoir en tête, et c'est clair qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de choses à faire, et oui, ça nous donne envie de réfléchir à d'autres projets, mais ça, on garde ça dans un petit coin de notre tête, et c'est vrai que voilà, je pense que ça pourrait aussi nous combler en tant que professionnels d'avoir notre propre structure et nos propres valeurs dans cette structure-là, quoi.
Écoutez, je vous le souhaite, alors. c'est un projet. Je vais passer sur les petites questions de la fin, sauf si vous avez d'autres choses que vous auriez aimé transmettre, dire, évoquer, qu'on n'aurait pas abordé pendant ce premier temps d'échange.
Je pense qu'on a parlé de pas mal de choses.
Oui.
Ouais. Ok. Alors, si vous deviez faire autre chose que vrai dans le travail social, ce serait quoi?
C'est une question tellement difficile et qu'on peut se poser, je pense, aussi de temps en temps, ou d'ailleurs qu'on nous pose. Mais pour moi, c'est juste impossible de faire autre chose qui se rapporterait directement à l'humain, en tout cas. Moi, je sais que l'accompagnement des personnes, ça me fait vibrer, et ça restera toujours, euh,
toujours en moi, mais après on se dit aussi que souvent les personnes qui aiment les êtres humains aiment les êtres les animaux, donc peut-être pourquoi pas auprès des animaux, mais après de manière générale tout ce qui se rapporte à l'humain, voilà. Moi j'aime beaucoup la photographie aussi et tout ce qui se rapproche au portrait, encore une fois, tout ce qui est l'humain, c'est
quelque chose qui me plairait.
Alors, attention.
Je sais pas, j'ai plein de choses qui m'énervent. Alors, je pense, peut-être psychologue ou éducatrice sportive. Okay. Bah, je pense que c'est vraiment peut-être les deux métiers où je me serais vue si j'étais pas éduque de jeunes enfants. C'est ça, en lien avec la personne et du coup, dans une forme aussi de partage et d'échange. C'est ça qui est.
Toujours en lien avec l'humain, quoi. Il n'y a pas de projet de partir sur autre chose que le lien avec les personnes. Mmh. Ok. Si vous aviez la fameuse baguette magique dont on entend souvent parler dans cette situation, il faudrait une baguette magique pour qu'elle avance. Bon, bah alors, je vous la donne. Qu'est-ce que vous en faites?
Alors, moi, la baguette magique, j'utiliserais pour chaque décideur politique, je pense que c'est là où réside beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, certes, chaque être humain peut mettre sa pierre à l'édifice, mais du coup, si en haut où les décisions sont prises, on prend pas conscience des réalités de terrain de chacun des professionnels dans le secteur social ou de l'handicap, de la petite enfance, de l'exclusion, etc., les choses avanceront beaucoup moins vite ou peut-être avec dans des sens parfois contraires aussi. Donc en tout cas ma baguette magique elle l'irait dans ce sens-là pour la France mais pour chacun des pays du monde.
Moi je pensais pareil au manque de moyens en fait, d'avoir simplement plus de moyens parce que en fait on a envie de faire plein de choses dans le travail social et il y aurait tellement de choses à faire mais sauf que des fois on est tout simplement bloqué par le manque de moyens, le manque au niveau de l'encadrement des enfants mais aussi des personnes accompagnées. Je trouve que parfois à cause de ce manque de moyens là on peut sortir de nos valeurs justement quand on pense à quel point c'est important de se rapprocher au plus près de la singularité de chaque personne, de chaque enfant qu'on peut accompagner, mais que dans la réalité on peut pas toujours le faire, qu'on en aurait très envie et que parfois on a beau le dire notre direction mais qui elle-même ne peut pas faire autrement parce qu'il y a un manque de moyens, ça nous fait parfois exercer dans des conditions où on n'est pas au plus juste de ce qu'on voudrait faire, en tout cas auprès des personnes accueillies. Mmh.
Effectivement. Ok, merci pour vos réponses. Alors, vous avez... l'invité en tout cas précédente vous a adressé une question, donc vous avez reçu une question. Je vais mettre quelques petits éléments de contexte pour que ce soit un petit peu plus clair, parce que la question en elle-même sans l'échange avant c'est un petit peu brut. Donc elle disait qu'elle faisait partie d'une génération de travailleurs sociaux qui a beaucoup entendu parler de distance, de bonne distance. Elle évoquait qu'on savait aujourd'hui que c'était dans l'engagement relationnel, dans le lien et dans le regard à l'autre qu'on travaillait et que c'était même notre seule façon de travailler. Et ce qu'elle aimerait vous demander, c'est... comment vous vous situez en proximité des personnes que vous accompagnez? Je pense que c'était l'idée de savoir où vous mettez le curseur un petit peu.
Alors, je pense que en fonction des familles, en fonction des ressources, des problématiques, la proximité n'est pas la même. Parce que... il y a certaines familles qui ont besoin qu'on soit dans de l'accompagnement et très... à côté, vraiment près d'eux, où ils sentent vraiment ce soutien qu'on leur porte. Et il y a certaines familles, même si un regard est posé, parce que pour moi, chaque famille et chaque enfant, si on ne les regarde pas, si on ne les considère pas, pour moi, il n'y a pas de travail qui est possible avec elles. Alors, voilà. Mais certaines familles, pour justement permettre qu'il y ait un accompagnement qui soit juste et opportun, ça nécessite d'avoir cette distance. Et parce que ça les protège et parce que ça nous protège dans le travail qu'on doit accomplir avec elles, parce que elles ne sont pas elles-mêmes parfois en capacité justement de mettre des limites. Et c'est leur problématique à elles. Et si nous, on n'est pas capable de le faire, du coup, on est enrôlé dans quelque chose où on s'envahit mutuellement et où bah, finalement, est-ce qu'on répond aux objectifs et on est vraiment dans l'accompagnement. Je pense que en fonction d'eux, il y a une question finalement parfois de proximité, des fois de distance, et qui parfois aussi en fonction finalement du temps, ça peut se moduler, puisque pour moi les choses elles sont pas rigides et tout le temps figées, mais ça demande parfois effectivement ce recul là, mais voilà, dans le respect de la personne parfois ça peut s'accompagner aussi de mots hein. Je pense à une famille où ça a été accompagné de mots, je suis un peu plus voilà, je suis un peu plus distante, je suis un peu plus peut-être je vous encadre un petit peu plus, je vous accompagne plus à effectivement avoir ce cadre-là parce que c'est nécessaire pour telle ou telle raison par rapport à votre enfant. Et voilà, ça s'accompagne. Alors, certaines ne sont pas en capacité de l'entendre, mais pour celles qui peuvent l'entendre, ben voilà, ça peut s'expliquer. Et, pour moi, c'est pas de la violence, c'est justement du respect, de la bienveillance envers l'être humain qui est en face de moi.
Ok, merci.
Ce qui est intéressant, c'est de se dire justement que les choses, les accompagnements, en tout cas, sont différents en fonction d'une personne à une autre. Et à un moment donné, l'observation, et tu parles de durée, de temps, voilà, le temps aussi, le temps de la confiance et le temps de la rencontre, en fait, a toute son importance aussi pour évaluer aussi comment on peut accompagner telle ou telle personne et que les choses, elles évoluent aussi, elles évoluent... dans le temps, ouais, dans le temps.
Ok. Merci pour vos réponses. Je vous laisse poser alors une ou deux questions, comme vous voulez, au prochain invité. Vous pouvez en poser une chacune ou une en commun, comme vous êtes libre de décider.
Comment ça ? Je sais pas, quelle définition tu veux ?
Ouais, ah non.
Ah non ? Non. Moi, je pensais à quel voyage, enfin, professionnel, peut-être la plus marquée, mais parce que voyage, c'est pas forcément tu vois, mais...
Oui, complètement, ouais. Une bonne idée.
On s'est concerté.
Alors, après concertation, la question
alors,
est...
Alors après, tu reformuleras. Voilà. Mais l'idée, c'était peut-être quel voyage, du coup, peut-être on va dire plus professionnel, t'as le plus marqué.
D'accord.
On parle de voyage au sens large après aussi.
Ouais, ça... pas forcément. C'est pas un voyage en termes de départ dans un autre pays, etc. Ça peut être. Voilà, je pense que on fait tous un voyage dans sa vie. Enfin, je veux dire, quand on est amené à changer, à évoluer dans notre manière de penser, et ça nous amène finalement à voilà, voir différentes choses, expérimenter différentes choses, et c'est aussi un voyage finalement. Et donc du coup.
Ok, eh ben c'est noté. Merci beaucoup pour cette question qui effectivement est très vraie. En tout cas, on traverse des lieux, on traverse des pensées, on évolue. Donc forcément, ça invite au voyage au sens très très large. Merci beaucoup Solène et Rouen pour ce que vous nous avez partagé. J'espère que votre projet Éducœur va se poursuivre comme vous l'entendez, que vous allez pouvoir peut-être repartir si c'est votre souhait et continuer à nous partager votre belle expérience. Voilà.
Merci
à toi. C'était vraiment un échange riche et on espère aussi que ton projet vraiment va continuer à évoluer et permettre à d'autres personnes de pouvoir aussi partager voilà leur expérience.
Merci beaucoup.
À rendre visible l'invisible.
C'est ça l'idée. Merci à vous et puis à bientôt.
À bientôt. If you think you're alone, you're not the only one. If you think you're alone, you are wrong. Because what you defend is a gift in your hand. You just have to be proud, say it clear and loud. Because what you defend is a gift in your hand. Just have to be proud, say it clear and loud. Invisible voice for unstoppable choice.